Ce soir, on remonte comme hier le courant de l'électropop à la recherche de sources oubliées qui mènent parfois en France, vous allez l'entendre. Mais bon, mieux vaut commencer par une évidence qui va rafraîchir la mémoire de chacun. Vous connaissez évidemment ça, à moins bien sûr d'avoir passé les dernières 40 années enfermé dans une grotte, ou bien d'être né après l'année 1980, vous avez bien sûr le droit. Mais enfin, je suis sûr que les moins de 40 ans ont entendu ça au moins une fois dans leur vie, ne serait-ce que lors de soirées organisées par leurs parents. Enola Gay, un des plus gros tubes de l'histoire alors toute jeune de l'électropop, ça remonte à l'année 1980, le groupe s'appelait Orchestral Maneuvers in the Dark, manœuvres orchestrales dans le noir, et c'était un duo qui venait de la ville de Liverpool. Alors plusieurs choses intéressantes à signaler, enfin une ou deux intéressantes et l'autre simplement amusante. Enola Gay, c'est une mélodie qui à l'époque paraissait déjà rétro. La progression d'accords rappelait de vieilles ballades rock'n'roll de la fin des années 50. Je pense à Chapel of Love des Dixie Cups par exemple. Et puis le sujet de la chanson, on le dirait pas à l'écouter comme ça, est assez grinçant. Peut-être y en a qui le savent, Enola Gay c'était le surnom que Paul Tibbets, qui était le pilote du bombardier Boeing B-29 Super Fortress, avait donné à son avion, d'après le nom de sa maman, quel avion ? Eh bien l'avion qui, le 6 août 1945, largua une bombe atomique sur Hiroshima. Et 35 ans après, donc en 1980, Andy McCluskey, un gamin de Liverpool, soulignait avec un humour plus que noir le contraste entre la fierté guillerette du pilote qui va retrouver sa maman après avoir bien accompli sa mission et puis la l'atrocité de ce qu'il laisse derrière lui. Maman est fière de son petit garçon, dit la chanson, mais ce baiser que tu viens de donner, il va pas disparaître de sitôt. Voilà qui illustre cette électropop naissante de la fin des années 70 en apparence. Il y avait dans les mélodies, les accords, les rythmes, un retour à une certaine innocence du rock'n'roll primitif de la fin des années 50, d'avant les Beatles et les Stones. Mais derrière ce sourire de façade, il y avait beaucoup de cynisme et de sarcasme. Même quand on faisait la fête dans ces années-là, il pouvait y avoir parfois un sourire en coin et même carrément une grimace. En tout cas, c'était un des visages de cette période. Pas le plus courant, mais il était présent. Alors à propos de sourire en coin, eh bien voici un. Il se trouve que j'ai un souvenir précis du concert que le groupe Orchestral Maneuvers in the Dark a donné en 1980 à Paris, au Bain Douche, que les amateurs de ce genre de musique, qui étaient très peu nombreux alors, ne remplissaient souvent même pas. À un moment, les gens se sont mis à danser frénétiquement, sans doute parce que le groupe a joué Enola Gay. C'était comme une sorte de brusque délivrance. Et à ce moment-là, je me suis retourné et qui n'ai-je pas vu ? Jacques Attali en personne, alors jeune intellectuel à lunettes. Il avait encore exercé aucune responsabilité politique. Hein, Giscard achevait son septennat. Et oui, Jacques Attali lui-même lancé dans une espèce de jerk robotique. Je peux vous dire, c'est une vision qui m'est restée. Alors hier, je vous ai parlé du film que le musicien Marc Collin, enfin avant-hier plus exactement, que le musicien Marc Collin a consacré à une compositrice imaginaire de musique électronique dans le Paris des années 78-79. Le film qui sort aujourd'hui s'appelle Le Choc du Futur. Et je vous ai promis qu'aujourd'hui, on écouterait quelques pionniers français de l'électropop. Et oui, il y en a eu quelques-uns. La France a toujours eu quelques métros de retard par rapport au rock, mais jamais par rapport à l'électro. Pour une raison simple, c'est que la France a contribué à inventer l'électro et ses pionniers n'ont pas toujours été célébrés chez nous à leur juste valeur, sauf à l'étranger, c'est souvent comme ça. Parmi ces pionniers, il y avait au début des années 80 un groupe qui s'appelait Charles de Gaulle. Oui, vous avez bien entendu, sauf qu'ils écrivaient Gaulle, G-O-A-L, hein, comme un goal de football. Il paraît qu'à l'époque, d'ailleurs, le chargé de la SACEM, la Société des auteurs, compositeurs, éditeurs de musique, avait tiqué quand les gars avaient déposé ce nom. Derrière Charles de Gaulle, il y avait Patrick Blin, un garçon qui écrivait très bien et qui avait vu la lumière en découvrant des groupes qui étaient à l'intersection du rock et de l'électro. Je pense à l'américain Devo, qu'on a entendu avant-hier, et l'anglais Wire, un groupe à l'importance immense. Un jour, c'est promis, je lui consacrerai un concert idéal. C'est le label parisien New Rose, également un magasin de disques légendaire du Quartier Latin, qui publiait les disques de Charles de Gaulle. Alors à l'époque, je dois l'avouer, j'étais passé complètement à côté. Alors faut comprendre, il y avait tellement de choses nouvelles, on savait pas où donner de la tête. En tout cas, j'ai été frappé, pas plus tard qu'il y a une semaine, par la qualité et le classicisme de ce titre de 1985, Technicolor, signé Charles de Gaulle, et que je découvre, eh ben oui, 34 ans plus tard, le label parisien Born Bad a eu la très bonne idée de publier une compilation de ce groupe qu'on redécouvre ce soir sur France Inter.
L'œil habitué, je lis entre les lignes. Very Good Trip, Mishka Assayas.
My name.
Disco Rough, une espèce de soul froide, vaguement jazzy, 100% électronique, signé par Mathématiques Modernes, un éphémère duo de cette période effervescente de la fin des années 70, une période où on avait déjà la préscience, bien avant l'arrivée de l'Internet, d'un nouveau monde dominé par l'électronique et de nouvelles technologies, un monde qu'on regardait avec un mélange de fascination et d'effroi. Au fond, ça n'a pas tellement changé. En ce temps-là, certains musiciens avaient comme un don de divination, c'était pour ainsi dire des médiums. On n'attendait pas d'eux, comme c'est souvent le cas aujourd'hui, qu'ils nous divertissent sans suite, mais qu'ils éclairent notre présent et notre avenir, au fond, qu'ils soient des poètes. C'est une attente qui semble avoir en partie disparu dans la musique. Peut-être ça reviendra, qui sait. En tout cas, deux mots sur Mathématiques Modernes. Il se trouve que j'ai bien connu celui qui avait cofondé ce duo, Claude Artaud. Il l'avait cofondé avec une chanteuse qu'on connaissait seulement par son prénom, Edwige. À vrai dire, on la connaissait surtout comme mannequin. Elle était une star dans un petit milieu d'avant-garde à Paris. C'était une superstar au sens où Andy Warhol avait employé ce mot une quinzaine d'années auparavant à la Factory de New York. C'est-à-dire quelqu'un qui créait l'événement dès qu'elle apparaissait quelque part. Pas seulement un bar, une fête, mais au fur et à mesure, je sais pas, une épicerie ouverte la nuit, un graillon quelconque, voilà. Edwige était, pour ainsi dire, une œuvre d'art vivante. Elle était grande, longue, elle avait des cheveux blonds coiffés en brosse, un air froid et hautain, c'était l'époque, et elle gardait l'entrée des bains-douches, laissant entrer les gens du milieu et refoulant les touristes. Alors j'avais connu son associé au sein de Mathématiques Modernes, Claude Artaud, en l'interviewant à mes tout débuts en 1980. Claude était lié à Jacques Do, des Stinky Toys, un des artisans de l'électropop naissante à Paris. Et Claude avait, lui, une sacrée allure aussi, une coiffure rockabilly, un visage aux traits anguleux, un aspect dur et en même temps quelque chose de timide et de fragile. Il se déplaçait avec raideur et nervosité. Il portait d'épais par-dessus en hiver, des costumes lourds à la coupe des années 50. Son regard était de glace, mais son âme de feu. On avait des conversations passionnées sur le futur de la musique et de la société, pas très optimiste. J'avais beaucoup d'admiration pour lui, je pensais qu'il avait de quoi s'imposer dans cette électropop naissante en pleine ébullition. Et puis il a disparu, j'ai plus de nouvelles. Et j'ai appris après coup qu'il était, comme on dit, tombé dans l'héroïne. Et c'est avec beaucoup de tristesse que j'ai appris sa mort il y a quelques années, comme celle d'Edwige, il y a 5 ans. Leur titre, Disco Rough, signé Mathématiques Modernes, était en tout cas une des pierres angulaires de l'électropop en France. Tout comme, plus ancré, on l'a entendu dans le rock'n'roll et le Velvet Underground, le titre qu'on a entendu avant, interprété par Marie et les Garçons, un groupe lyonnais qui était en avance sur son temps. Le titre s'appelait Attitude, c'était une double face A, il y avait Rebop aussi, un excellent titre. Tout de suite, une rareté. Alors, il y a eu dans les années 80 un remarquable trio marseillais créé par un étudiant en médecine qui avait fait partie enfant d'une chorale religieuse, Alain Séguir. Et il avait fondé un trio qui répondait à l'étrange nom de Martin Dupont. Un groupe qu'il avait formé avec deux jeunes femmes, Catherine Loi et Brigitte Balliant, que finirait par rejoindre une clarinettiste anglaise, d'ailleurs que Alain Séguir a fini par épouser. Une association locale avait produit le premier album de Martin Dupont, Just Because, en 1984. C'est vraiment un des groupes les plus méconnus et sous-estimés de cette période, d'une musicalité étonnante, comme en témoignent les percussions inattendues et les harmonies étranges qui accompagnent ce beau titre qui s'appelle Mouvement, et c'est Martin Dupont. Alors je ne sais pas si c'est Catherine ou c'est Brigitte qui chante. Alors, si vous êtes au courant, vous pouvez nous faire signe. Je vous rappelle que vous êtes sur France Inter ce soir.
On réveille bien vertigo. j'ai peur. Je sais que j'ai perdu, je m'apprête à la vie. Le monstre en est conscient, j'ai peur.
Curiosité qui a bien résisté à l'épreuve du temps, Watching You Dance, un titre de 1982 signé par un groupe de Manchester qui s'appelait The Passage, formé par un percussionniste de formation classique du nom de Dick Witts. On avait comparé The Passage à Joy Division, c'est vrai qu'il y avait des points communs, une sorte d'angoisse froide dans sa voix à lui, c'est pas celle qu'on a entendue mais celle de sa collaboratrice, des sonorités oppressantes, il y avait aussi de la colère chez Dick Witts. Dans sa voix et les paroles de ses chansons, il était très remonté contre la religion catholique dans laquelle il avait été élevé et aussi contre la politique de Margaret Thatcher, qui était devenue Premier ministre du Royaume-Uni en 1979. Et en ce sens, on peut le rapprocher d'un autre excentrique de Manchester, Mark E. Smith du groupe The Fall. En tout cas, dans le mélange de sonorités électroniques et industrielles, musique contemporaine et mélodies classiques, il y avait quelque chose d'absolument unique chez The Passage, un groupe qui mériterait d'être redécouvert aujourd'hui par un large public. Tout de suite, une chanteuse qui, quoique britannique, a eu surtout un impact en France et en Allemagne dans la première moitié des années 80, le nom de Anne Clark ne vous dira peut-être rien, mais elle a été un personnage clé de cet underground post-punk. À Londres, elle avait à peine 18 ans à la fin des années 70 quand elle s'est lancée pour réciter ses poèmes à la manière de Patti Smith sur une petite scène qui était fréquentée par des musiciens marginaux. Des poèmes où elle s'ouvrait de ses blessures, ses souffrances, avec un courage et une franchise exceptionnelle. Elle a été une des premières dans ce style à le faire, rencontrant d'ailleurs bien plus d'écho en Europe continentale, chez nous en France et en Allemagne, que chez elle. Anne Clark dans Our Darkness, c'est sur France Inter ce soir.
Thank you.
Comment faire de l'électropop sans instrument électronique, avec trois fois rien, une guitare et une basse étouffée, réduite au strict minimum, une sorte d'orgue de chapelle et une boîte à rythme en sourdine? Eh bien, le trio des Young Marble Giants, venu d'un coin rural du pays de Galles, y était arrivé en 1980, et l'unique album enregistré par ce groupe, formé par deux frères et la fiancée de l'un d'eux à l'origine d'une simple maquette, avait été un événement dans la petite communauté des amateurs de ce genre de musique, une communauté nouvelle tout autour du monde. Il faut dire qu'ils avaient des atouts particuliers, la qualité des chansons, toutes écrites par le guitariste Stuart Marksum, qui s'ouvrait avec simplicité de ses failles et de ses blessures, comme dans cette chanson N.I.T.A. Nita, qui commence par ces paroles aussi simples que douloureuses. C'est chouette d'apprendre que ça va bien pour toi, mais ça me blesse encore parce que avant, tu étais à moi. Des paroles dites d'une voix blanche, comme détachée et pourtant vibrante, de sensibilité rentrée, celle de la chanteuse Alison Staton, qui était alors fiancée au bassiste Phil Marksum, et dont son frère aîné, Stuart, compositeur de la chanson, était lui aussi très amoureux, mais en secret, d'où son déchirement. Juste avant, une curiosité, un duo de Liverpool complètement oublié qui s'appelait Dalek I Love You. Alors les Daleks, il faut savoir, c'était des espèces de robots pas très sympathiques que beaucoup d'enfants et d'adolescents britanniques voyaient dans la très populaire série de science-fiction Doctor Who. Le chanteur Alan Gill et le clavier Dave Hughes formaient donc ce duo Dalek I Love You, vaguement inspiré par les Allemands de Kraftwerk, une influence omniprésente à l'époque. Ces musiciens étaient issus du même vivier de Liverpool qui avait vu naître le duo Orchestral Maneuvers in the Dark, ou encore le groupe The Teardrop Explodes avec Julian Cope. Sorti en 1980, l'album de Dalek I Love You, qui s'appelait Compass Compass, avait été à juste titre salué par la critique comme une des grandes réussites de l'année. Vous avez entendu la chanson qui s'appelait The World. C'est un peu à la jonction de Brian Eno et de Kraftwerk, deux des modèles de cette jeune génération de musiciens. Autre chose à présent de tout à fait différent, les Residents. Il existe depuis 40 ans au moins comme une société secrète de passionnés qui mettent au-dessus de tout le reste ce groupe, auteur d'albums qui compte parmi les plus bizarres de l'histoire de la musique enregistrée. On n'a jamais vu le visage des Residents caché derrière des montages surréalistes qui évoquaient, je suis sûr qu'il y en a à qui ça dira quelque chose, des réalisations de Jean-Christophe Averty du temps de l'ORTF. Par exemple, de gros masques représentant des globes oculaires au blanc injecté de sang, surmontés de petits chapeaux haute forme posés de travers. Ce sont des enregistrements indescriptibles qui font penser parfois à certains collages loufoques de Frank Zappa avec les Mothers of Invention, mais avec des sons électroniques et industriels particulièrement dérangeants et des voix trafiquées souvent effrayantes. Tout ce qu'on savait des Residents et qui travaillaient dans la région de San Francisco, on a appris récemment l'identité de celui qui avait, pour ainsi dire, dessiné les plans du groupe et supervisé leurs enregistrements, pour une triste raison, l'annonce de son décès. Il s'appelait Hardy Fox. Voici quatre courts morceaux qu'on peut considérer comme ce que les Residents ont enregistré de plus accessible. Ils sont extraits d'un album que le groupe a appelé drôlement, enfin c'était un peu par antiphrase, The Residents Commercial Album.
Le Trip sur France Inter, Mishka Asayas.
Ne fiez pas à ces quatre titres extrêmement brefs, plutôt doux et tranquilles, interprétés par les Residents. Il y a beaucoup plus dérangeant et grinçant dans ce qu'ils ont enregistré. Certaines de leurs expériences sonores ont pu d'ailleurs anticiper les réalisations les plus extrêmes de la musique industrielle. Tout de suite, un titre qui devrait vous surprendre, non par son style électropop, aujourd'hui très classique, mais par sa date de parution, 1979, une des premières utilisations d'une voix entièrement déformée par le vocoder. Vous savez, c'est un procédé électronique qui transforme la voix humaine en un bizarre son synthétique des tons et dont on a beaucoup usé et abusé par la suite. La chanson s'appelle Behind the Mask, elle a été créée en 79 par Yellow Magic Orchestra, un groupe où s'est révélé l'illustre musicien japonais Ryuichi Sakamoto, un des visionnaires de la world music. Une chanson que Michael Jackson avait prévu de reprendre pour son album Thriller, mais qui avait été coupée au montage et Eric Clapton l'a chantée quelques années plus tard. Behind the Mask, c'est Yellow Magic Orchestra sur France Inter ce soir. Avez-vous reconnu ce groupe? C'était. D'ailleurs, je pose la question à Maud Berthomier, qui est avec moi, qui est l'auteur de Encore plus de bruit par l'édition Tristram, qui est un recueil de conversations avec les pères fondateurs de la critique rock aux États-Unis. Et j'étais avec Laure Adler tout à l'heure chez elle, et je l'ai entraînée en studio avec moi. Voilà, vous ne l'avez pas entendu, mais elle était là. Vous avez reconnu ce groupe, Maud? Tu as reconnu?
Tu veux dire sur sur Depeche Mode, là, juste
voilà,
à la fin.
Oui, tu connaissais ce titre?
Oui, je le connaissais. J'ai pu danser dessus.
Ah bon, voilà. Moi aussi.
À plusieurs occasions.
Bon, d'accord. En effet, c'était Depeche Mode à ses tout débuts, en 1981, au temps où son premier compositeur, Vince Clarke, orientait ses chansons vers les ballades rock and roll de la fin des années 50, début des années 60. Voilà. Demain, c'est promis, on va passer au 21e siècle. Juste le temps de remercier chaleureusement Stéphane Ronxin qui a réalisé l'émission, voilà, qui est très présent, Maxime Ingrand à la technique, Zora Ben Smiley pour le site internet et Romain Couturier à la discothèque de Radio France.